Nicolas Irambona à la présentation et Eric Ouimana à la cabine technique. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les habitants du quartier Gitouro de la zone Nkamenge de la commune Narangwa se disent préoccupés par les ordures ménagères qui ne sont plus ramassées par les associations en charge depuis plus de 2 mois. Ils indiquent craindre que cela n'entraîne des maladies liées à l'hygiène. Et la 5e édition de la semaine dédiée à la diplomatie verte organisée par l'Union européenne sera célébrée ce jeudi 30 octobre à Teza. Le chargé du programme de développement rural et environnement à la délégation de l'Union européenne a précisé que cette 5e édition vise le renforcement des efforts en faveur de la biodiversité. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM estime que la Banque centrale n'a aucune excuse pour prétendre ignorer les défis rencontrés dans les institutions financières. Fossandi Koumana, directeur national de la PARSEM, le déclare après que certains citoyens aient signalé avoir déposé leur argent dans ces institutions sans pouvoir le récupérer par la suite. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Je le disais en titre, l'Union européenne en partenariat avec l'ambassade de la Belgique, le PNUD et la Bibliothèque sans frontières en collaboration avec l'Office burundais de l'environnement, organise la 5e édition de la semaine dédiée à la diplomatie verte. Dans une conférence organisée ce mardi, Pascal Ledroit, chargé du programme de développement rural et environnement à la délégation de l'Union européenne, a précisé que cette 5e édition vise le renforcement des efforts en faveur de la biodiversité en incluant les jeunes. Financé à hauteur de 25 millions d'euros, ce programme sera exécuté dans et autour du parc national de la Kiwira et du parc national de la Rusizi. Suivez-le.
C'est un programme qui a plusieurs composantes. La composante qui sera mise à l'honneur au cours de la journée, c'est la composante protection des aires protégées. Et ce qu'on va voir, c'est les activités en lien avec l'éducation environnementale ciblée sur les jeunes au sein des communautés environnantes du parc de la Kibera. Ce projet s'inscrit dans un contexte plus large. Le programme Dukinkire Dukidije, c'est un programme de 20 millions d'euros de l'Union européenne. Il y a 4 millions de la contribution belge, il y a 1 million de la contribution PNUD, donc c'est un gros programme de 25 millions qui adresse à la fois les aires protégées, à savoir la forêt du parc de la Kibera et le parc national de la Rusizi. Donc ça, c'est vraiment la composante environnementale pure, mais cette composante aussi déborde dans les zones avoisinantes et on a un programme qui est mis en œuvre par Enabel qui couvre ces zones environnantes pour justement faire un lien entre ces aires protégées et son environnement et protéger aussi les bassins versants, les zones environnantes de ces aires protégées. Donc ça, c'est un programme qui est mis en œuvre par Enabel. C'est la deuxième composante. Et on a une troisième composante qui, elle, va faire le lien, en quelque sorte, avec les avantages socio-économiques de ce programme Dunkinkire Bitukiji, qui est l'amélioration des conditions d'approvisionnement en eau potable des populations environnantes. Et ça, cette troisième composante, elle fait le lien entre les aires protégées, qui sont en quelque sorte des châteaux d'eau, les réservoirs d'où vient cette eau potable, les bassins versants au travers desquels cette eau va s'écouler pour servir finalement les populations bénéficiaires et qui vont donc avoir des conditions d'approvisionnement en eau qui vont s'améliorer. Cette troisième composante de 10 millions d'euros est mise en œuvre par un consortium d'ONG et donc on aura l'occasion, je pense, lors de cette journée, de voir un peu quel est l'état des réalisations de ces trois composantes.
Et lors de cette conférence de presse, Wekimas Hatungimana, directeur général de l'Office burundais de protection de l'environnement, OBPI, a annoncé que la délimitation par bornage cadastral à ces parcs est à 98%. Cette 5e édition sera célébrée justement ce jeudi 30 octobre à Teza. Et je vous l'avais dit en titre, les habitants du quartier Gitouro, dans la zone de Kamenge, de la commune Narangwa, sont préoccupés par les ordures ménagères qui ne sont plus ramassées par les associations chargées de le faire. Ils craignent que cela n'entraîne des maladies liées à l'hygiène. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio-télévision Isanganiro affirme que cela fait plus de 2 mois que les déchets ne sont pas ramassés, alors qu'ils continuent pourtant à payer pour ce service. Chidza Bernard, chef de ce quartier, annonce qu'une solution sera trouvée d'ici lundi. Le point avec Stella Deschimi.
Arrivé juste sur la 3e avenue et la 2e avenue du quartier Gitouro, vous êtes accueillis par des tas de sacs remplis d'ordures entassées le long de la rue. Les habitants et les personnes qui y travaillent affirment qu'il y a environ 2 mois qu'aucun camion n'est venu ramasser ces déchets. Ces habitants disent craindre que cette situation ne provoque l'apparition des maladies liées au manque d'hygiène.
Nous rencontrons un problème avec la collecte des immondices. Autrefois, ils étaient ramassés régulièrement, mais cela fait maintenant 2 mois qu'ils ne viennent plus. Comme tu vois, les enfants parfois fouillent ces déchets à la recherche d'objets, puis mangent sans se laver les mains, ce qui engendre des maladies. De plus, avec la saison de pluie, les asticots pénètrent jusque dans nos maisons.
Ces habitants demandent aux autorités compétentes de résoudre ce problème, surtout qu'il y a déjà un problème d'eau potable dans cette localité. Chizé Bernard, le chef du quartier Gitouro, affirme ce problème et explique que cette situation est due à l'expiration du contrat entre la mairie et les sociétés chargées du ramassage des ordures. Mais il rassure néanmoins la population qu'une solution sera trouvée d'ici lundi. Ce problème d'ordures non ramassées ne concerne pas seulement le quartier Gitouro, mais également d'autres quartiers de la zone Kamenge, selon toujours les propos du chef du quartier Gitouro.
La jeunesse étudiantine du Burundi ne s'oriente pas massivement vers l'apprentissage des métiers, alors que ceux-ci sont d'une importance capitale à notre époque. C'est ce qu'a déclaré Elmel Njid Bulikukie, secrétaire permanent au ministère de l'Éducation, lors de l'ouverture officielle de la 3e édition du concours national des métiers Umuga Award, organisé par le gouvernement burundais en collaboration avec l'Agence belge de développement Enabel et la Chambre fédérale du commerce et d'industrie CFCIB. Au total, 56 compétiteurs sur 9 filières de métiers participent à cette compétition. Il a souligné la nécessité de pouvoir et encourager la jeunesse à s'engager dans les formations techniques et professionnelles, car certains centres de formation ont dû fermer faute d'avoir des apprenants. On l'écoute.
Concernant l'engouement pour ces centres de formation professionnelle, je l'avais déjà signifié, ce ne sont pas seulement des salles de classe pour qu'on ait une formation technique et professionnelle. Il faut ces équipements, il faut les enseignants qualifiés, il faut également les apprenants. Il y a des filières qui ont été mises en place, mais qui n'ont pas eu d'apprenants. Peut-être parce qu'il y a plusieurs paramètres, évidemment, que peut-être ces filières ne les intéressaient pas. Et pour la plupart des Burundais, le métier ne les intéressait pas. Tout le monde aime faire l'université. C'est le problème que nous avons au moment des orientations. Tout le monde veut aller à l'université. Tout le monde veut être administratif. Il veut être dirigeant. Est-ce que dirigeant, c'est un métier? Être dirigeant est un métier. Voilà, c'est donc plutôt une sensibilisation sous plusieurs formes qu'il faut arriver alors à faire aimer à nos jeunes à fréquenter l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui est un cadre qui répond à cette préoccupation. Il faut montrer qu'avec le métier, on parvient à émerger. Il faut donc parler, mais il faut finalement concrétiser en montrant à ces jeunes. C'est pour cette raison qu'on a appelé les élèves de la 9e année pour se rendre compte des réalisations du domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est-à-dire les métiers, qu'est-ce que ça apporte. Et donc, il faudra plutôt alors continuer à faire la sensibilisation pour les journalistes, les médias. Il faudra donc porter plus loin et aussi tous les partenaires. Et nous tous, surtout du système éducatif, et puissions continuer à faire connaître l'importance du métier pour nos jeunes.
La Confédération des syndicats libres des travailleurs, CSB, estime que la suppression des frais octroyés aux présentateurs internes à la structure ayant organisé l'activité récemment décidée par le Conseil des ministres est incompréhensible. Gilbert Nyawakira, président de la Confédération des syndicats des travailleurs, exprime plutôt explique que cette décision démotive les experts de l'entreprise qui investissent davantage d'efforts dans leur recherche et qui, de surcroît, sont généralement moins coûteux que les intervenants externes. Suivez-le.
Quand offre qui était octroyée au présentateur interne, c'est une expertise interne. C'est déjà un avantage dans le service qu'on ait une expertise interne qui n'est d'ailleurs pas très chère. C'est un des maigres moyens d'encouragement, d'encourager des expertises internes et des expertises internes qui profitaient aussi à d'autres travailleurs. Et vous croyez que l'expertise, on n'en est pas expert, on le devient. C'est par rapport à l'esprit de recherche, l'esprit de se documenter et d'élaborer une matière profitable pour toute l'organisation et pour tous les travailleurs. Et qui, de ce fait, peut améliorer la production de l'entreprise, peut améliorer le rendement au service. Je crois que ces expertises internes, elles sont de nature plutôt à encourager. Parce que même si elles peuvent être payantes, elles ne sont pas aussi chères que les expertises externes. Encourageons-le courageusement d'ailleurs pour que les travailleurs aient le temps ou l'intérêt de se documenter et d'élaborer vraiment des matières profitables à l'organisation et profitables au personnel pour produire plus.
L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités Parsem estime que la Banque centrale n'a aucune excuse pour prétendre ignorer les défis rencontrés dans les institutions financières. Faustin Dikoumana, directeur national de la Parsem, le déclare après que certains citoyens aient déclaré avoir déposé leur argent dans ces institutions sans pouvoir le récupérer par la suite. Il explique que la Banque centrale dispose des mécanismes nécessaires pour prévenir les problèmes pouvant survenir au sein de ces établissements. Faustin Dikoumana estime en outre que la Banque devrait renforcer la surveillance de ces microfinances et utiliser les nouvelles technologies afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. Suivez-le.
Normalement, toute activité d'une entreprise, d'une entité ayant vocation à collecter l'épargne du public et accorder le crédit au public doit requérir l'autorisation de la Banque centrale. Parce que ces activités de microfinance interfèrent dans la politique monétaire. Et celle-ci doit être contrôlée par la Banque centrale, par excellence, pour éviter des effets inflationnistes liés au phénomène de la création monétaire incontrôlée qui pourrait découler de ces activités de donation de crédit de ces microfinances. Et donc la Banque centrale a normalement des mécanismes pour contrôler ces institutions de crédit, comme il faut d'ailleurs pour d'autres institutions financières. Il y a ce qu'on appelle les rations. La Banque centrale devait surveiller la ration des fonds propres pour voir si vraiment une entreprise de microfinance et a suffisamment de fonds propres pour exercer ses activités. Surtout au moment du capital de démarrage. Et vérifier que ces entreprises, au moment du capital de démarrage, si ce capital a été libéré en entièreté. Parce qu'il y a toujours des cas où les fondateurs de ces entreprises de ces microfinances, se contentent à utiliser l'argent du public seulement sans libérer les propres capitaux. La ration de trésorerie pour vérifier la trésorerie de ces entreprises pour faire face aux charges et aux demandes de crédit ou de retrait ou des éventuels retraits. La ration de solvabilité, tout cela doit être contrôlé et surveillé pour voir même s'il n'y a pas de créances en souffrance, litigieuses ou contentieuses. Il y avait aussi un système de réserve obligatoire imposé aux banques commerciales. Donc je crois que la Banque centrale ne devait pas se dédouaner dire que s'il y a des cas où il y a de tricherie, de quoi que ça ne le concerne pas, la Banque centrale doit avoir un droit de regard, de contrôle, de surveillance à travers ces mécanismes. La Banque centrale pourrait même inventer d'autres mécanismes innovants pour vraiment recadrer le fonctionnement de ces institutions financières, donc en l'occurrence les microfinances.
L'administrateur communal de Wururi, en collaboration avec les responsables des aires protégées dans cette commune, ont pris ce lundi la mesure de suspendre toutes les activités agricoles et de construction en train d'être exécutées sur 6 hectares à l'intérieur de la réserve naturelle de Vianda. Laurent Nyonsaba, exploitant de cette superficie, confirme l'avoir acheté, dit qu'il compte saisir le ministre ayant l'environnement dans ses attributions pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Le point avec Zénon Nzambimban.
Cette propriété d'une superficie de 6 hectares en train d'être exploitée par un certain Laurent Nyonsaba est située dans la localité de Kaberenge sur la colline Kalehe en zone Vianda de la commune Burui, province Burunga. Une partie de son terrain est déjà labourée. À côté de cette partie prête pour le semis, les travaux de construction des maisonnettes en bois sont en cours. L'administrateur de la commune de Burui, accompagné par les responsables de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Burui, ont effectué ce lundi une descente dans cette localité et ont pris la mesure de suspendre toutes ces activités et ils ont même ordonné la destruction de ces maisonnettes en bois. Jérôme Nishishikale, responsable des aires protégées de Vianda et Bururi, venait d'expliquer que ces 6 hectares sont à l'intérieur de la réserve naturelle de Vianda d'une superficie de 4670 hectares selon le décret numéro 100/282 du 14 novembre 2011 portant modification de certaines dispositions du décret numéro 100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de 4 réserves naturelles, y compris celle de Vianda. Au moment où 300 ménages sont toujours dans cette superficie de la réserve naturelle forestière de Vianda, Jérôme Nishishikale dit qu'après leur identification, ils se sont convenus d'y rester sans toutefois exercer d'autres travaux d'extension dans cette forêt en attendant leur délocalisation, tout en soulignant que Laurent Nyonsaba n'était pas parmi ces ménages identifiés en 2011. Jérôme Nishishikale ajoutait qu'aucune activité qui ne coïncidait pas avec la conservation des aires protégées n'est permise dans cette forêt. Laurent Nyonsaba, qui détient un certificat foncier de 6 hectares délivré par l'ancienne commune de Vianda, confirme avoir acheté son terrain tout en reconnaissant qu'il est situé depuis 2011 dans les limites de cette forêt. Il explique qu'il n'a pas été identifié comme ces 300 ménages autorisés de rester provisoirement dans cette aire protégée car une affaire sur son terrain était pendante au tribunal. Laurent Nyonsaba dit qu'il compte saisir le ministère ayant l'environnement dans ses attributions pour qu'il puisse continuer son projet relatif à la culture du raisin commun Ikibonobono en Kirundi. Odelive Nakiutimana, l'administrateur de la commune de Bururi, fait savoir que la reprise des travaux dans son terrain sera conditionnée par la présentation d'une autorisation. Depuis Bururi de la province Burunga, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro.
Radio Isanganiro, chronique santé.
Un enfant qui ne pleure pas à la naissance ou qui ne tète pas présente des signes majeurs indiquant une mauvaise santé, s'explique de la psychiatre Godelive Nimurona en soulignant l'importance pour les parents de détecter tôt ces anomalies afin de les corriger dans la mesure du possible. Elle ajoute que le mal-être de la mère dès le début de la grossesse peut être l'une des causes de ces troubles chroniques santé avec Ornella Mucho.
Un trouble du neurodéveloppement, ce sont des conditions qui affectent le développement du cerveau et du système nerveux, entraînant des difficultés dans la communication, les interactions sociales, dans la communication, la motricité, l'attention et le comportement. Alors, les premiers signes d'un trouble du neurodéveloppement incluent le fait que l'enfant ne pleure pas à la naissance ou qu'il ne sait pas téter. La psychiatre Godelive Nimona explique que d'autres signes peuvent également apparaître, dont un enfant qui ne réagit pas à son prénom entre 6 et 9 mois, comme s'il ne comprenait pas qu'on s'adresse à lui.
Si on voit un enfant qui le cou ne tient pas, ne peut pas s'asseoir, ne peut pas marcher, un enfant qui ne fait pas des premiers éléments du langage, qui ne fait pas des gazouillis, qui ne babille pas, qui ne prononce pas de mots, un enfant qui n'est pas relationnel, un enfant qui ne répond pas à son nom, un enfant qui joue seul, qui n'est pas dans le jeu communautaire, ces symptômes peuvent manifester que cet enfant-là aura un problème de développement. Durant les 3 premières années, l'avantage de détecter ces symptômes, c'est de pouvoir savoir si votre enfant est normal ou s'il est anormal. Si ces symptômes sont là, c'est qu'il n'a pas de problème. Et c'est pour le savoir tôt et l'aider tôt. Aider l'enfant, mais aussi aider les parents.
La spécialiste précise que les causes de ces troubles sont nombreuses, notamment liées aux conditions de vie de la mère pendant la grossesse, tout en soulignant qu'une mauvaise qualité de vie ou une maladie prolongée peuvent priver l'enfant de certains éléments essentiels à son développement. Elle ajoute que le Il ajoute que le fait que l'enfant ait été malade dès son jeune âge peut aussi être un autre facteur.
Les causes, des fois, sont inconnues. Par exemple, si on parle de l'autisme, jusqu'à présent, on ne connaît pas la cause. Mais il y a des causes liées aux problèmes d'accouchement. Et il y a des causes liées aux autres maladies infectieuses de la petite enfance qui peuvent entraîner un problème de développement. Au niveau de l'accouchement, nous, les thérapeutes, nous devons aider donc, les mamans qui accouchent pour qu'ils accouchent donc, sans difficulté. Mais aussi, nous sensibilisons les mamans. S'il y a une pathologie, par exemple, qu'on fasse traiter les enfants très tôt. Parce qu'il y a des pathologies, par exemple, infectieuses, qui peuvent exposer à un problème neurodéveloppemental. Donc, il faut que la prise en charge soit rapide pour essayer de prévenir cette évolution qui n'est pas bonne.
En général, les professionnels accompagnent les parents pour les aider à comprendre et à gérer les difficultés de leur enfant. Si cela n'est pas fait correctement, cela peut entraîner une aggravation de l'état de l'enfant qui peut se manifester par des comportements comme casser des objets ou se frapper lui-même.
Pour la prise en charge, donc, il y a des pathologies qu'on peut traiter et d'autres qui n'évoluent pas, dépendant de la gravité du trouble. Si je prends l'exemple de l'autisme, un enfant qui est autiste, c'est un enfant qui joue seul, qui est dans la solitude, c'est un enfant qui a des problèmes de communication, c'est un enfant qui veut toujours des mouvements stéréotypés, c'est un enfant qui n'est pas intéressé aux personnes, qui ne répond même pas à son nom, c'est un enfant qui n'est pas dans le relationnel. Donc si on le voit tôt, on peut aider l'enfant à se socialiser et on peut aider les parents à savoir comment l'accompagner, comment l'aider à se socialiser et aider les parents eux-mêmes à savoir comment gérer son problème, comment l'accueillir et comment accompagner cet enfant.
Enfin, Dr Godelive Nimona recommande que les femmes enceintes prennent soin de leur bien-être physique et mental tout en veillant à la santé de leur bébé dès la grossesse. Elle insiste également sur le rôle crucial des partenaires qui doivent soutenir et veiller au bien-être des femmes enceintes car leur équilibre émotionnel influence directement le développement de l'enfant.
Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.